VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 30 août 2023, édition spéciale sur le coup d'État au Gabon. Ali Bongo Ondimba, renversé par des militaires, il a été placé en résidence surveillée et mis à la retraite, selon le chef des putschistes, le général Brice Oligui Nguema.
Contre la démocratie politique, contre le tri et le désordre, il faut qu'une troisième voie se lève pour faire arrêter cela. Donc, on ne peut que saluer l'action des militaires.
Nikèze Moulumbi, président du Haut Conseil des acteurs non étatiques au Gabon, a suivi dans les réactions locales. Moussa Faki Mahamat, patron de la Commission de l'Union africaine, condamne, tout comme le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, qui estime que le pouvoir appartient au peuple d'Afrique et non au canon d'une arme chargée. La France, ancienne puissance colonisatrice, condamne le coup d'État et le Commonwealth, dont le Gabon vient de devenir membre, estime que la situation est profondément préoccupante. La Maison-Blanche dit suivre de très près la situation. Bonjour, bienvenue. Au Gabon, un groupe d'officiers de l'armée a annoncé aujourd'hui avoir pris le pouvoir et placé sous résidence surveillée le président Ali Bongo Ondimba quelques instants après l'annonce de sa réélection pour un troisième mandat. Les putschistes se sont présentés comme des membres du comité de transition et de restauration des institutions CTRI et ont dit représenter toutes les forces de sécurité et de défense du Gabon. Pour faire le point sur ce coup de force, je vous propose de retrouver sur place à Libreville notre correspondant Ismaël Obiangenze.
Le coup d'État est accueilli avec beaucoup de liesse populaire. Les militaires sont accueillis en véritable héros. Selon que vous allez dans les quartiers populaires, vous allez trouver des grappes humaines sur la rue en train de les accueillir parce que les militaires patrouillent en ce moment, sont véritablement gênés, les passants, il y a un climat vraiment de sérénité, tout se passe très bien. C'est comme dire que les populations attendaient une libération, et une libération qui est venue finalement au lieu des élections, mais des militaires.
Alors tout a commencé très tôt au petit matin. Comment s'est déroulée la prise de pouvoir par les militaires?
La prise de pouvoir par les militaires s'est déroulée sans incident parce qu'à 7 heures de la journée, on ne nous annonce pas qu'il y a eu, par exemple, des incidents ou des morts. Non, je me suis bien renseigné auprès de la garde républicaine qui a mené les opérations. Il n'y a pas eu d'incident. Il y a eu juste des tirs de sommation comme pour calmer ce type. Pouvait peut-être opposer une résistance. Tout s'est bien passé. Il y a eu des tirs à l'arme légère, le tir de sommation, et c'est au petit matin que le calme est revenu et la sérénité dans tout Libreville et aussi à l'intérieur du pays. Mais comme je vous le disais, c'est un coup de force qui a été accueilli majoritairement avec beaucoup de joie par les populations gabonaises.
Alors quelles sont les premières mesures prises par les putschistes?
Les premières mesures prises par les putschistes consistent à la fermeture des frontières, à la dissolution des institutions, j'entends par institution la Cour constitutionnelle, le Parlement, le Centre gabonais des élections qui est à l'origine des délibérations de la présidentielle de samedi dernier, et puis le Conseil économique et social. Voilà, ce sont les premières mesures prises donc par le comité de la transition et de la restauration des institutions.
Quel est le sort du président de l'ex-président? Président maintenant, Ali Bongo Ondimba.
On n'en sait pas plus, si ce n'est que ce que veut bien nous faire comprendre le comité de la transition et de la restauration des institutions, à savoir que le chef de l'État se porte bien, il a une résidence surveillée, il est avec son médecin, et lui-même a fait une annonce tout à l'heure, une annonce relayée par certains médias internationaux. Il appelait ses partisans à se mobiliser et à faire du bruit. Il dit ne pas savoir exactement ce qui se passe, mais qu'il se porte bien. Voilà ce qu'on a entendu de lui. Mais bon, au sein de la classe politique, on s'attendait plus ou moins à avoir des réactions, mais jusque-là, la classe politique ne réagit pas. Pas de réaction d'approbation ou de condamnation de ce qui vient de bouleverser l'ordre des choses, c'est-à-dire qu'on sort d'une élection qu'on pensait démocratique pour finalement basculer sur un putsch que personne n'avait prévu dans tous les scénarios programmés avant l'élection présidentielle.
Alors, on a vu à la télévision gabonaise le général Brice Oligui Nguema porté en triomphe. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur le leader de ce coup?
Le Brice Oligui Nguema, c'est un chef d'état-major de la garde républicaine, bien connu de ce milieu, qui a servi pendant longtemps la famille présidentielle. Il est monté récemment en grade il y a de cela 2 ans. Il est devenu général de brigade. Bon, on n'en sait pas plus sur lui pour le moment.
Voilà, les militaires mettent fin donc au régime cinquantenaire des Bongo, père et fils. Sans transition, quelques réactions à Libreville, recueillies par notre correspondant Ismaël Obiangze.
Et nous sommes plus que solidaires derrière cette armée qui aujourd'hui a porté, hein, parce que ça fait longtemps qu'on se disait que non, mais qu'est-ce qu'ils font, le pays va mal, l'armée ne fait rien aujourd'hui. Si l'armée est sincère dans son élan, nous sommes tout le monde d'accord avec eux.
Déjà, le CG annonce la victoire, il est quelle heure? Les Gabonais dorment, il n'y a pas d'information sur selon laquelle les élections vont être proclamées. Donc nous sommes dans le sommeil, lorsqu'on se réveille, effectivement, quand on nous appelle des opposants, que non, ah, on veut nous proclamer, aussitôt, c'est le coup de fusil. Donc chacun d'abord se choix pour en s'emparer la situation.
Je suis vraiment content et je suis libéré. J'ai 15 gosses. Je n'arrive pas à travailler dans mon pays. Partout là où je démange le ménage, on ne peut pas me prendre.
J'ai compris que celui qui prendra la tête du pouvoir écoute le Gabon, les Gabonais, afin que... On sait que la perfection n'existe pas. Hein? Nous sommes des humains. Et il y a souvent des fuites. Mais le plus important, c'est de tenir compte de la souffrance des Gabonais afin que le Gabonais se lève tête haute. Tu ne peux pas être diplômé. Tu as les diplômes, tu as des références et tu souffres. Tu vas demander un emploi comme ça. Oh non, il faut l'avoir payé. Tu viens demander l'emploi, il faut payer.
Le règne, 62 ans, que le Gabonais était en otage avec le PDG. Aujourd'hui, Dieu a suscité comme il avait sauvé les Israélites chez le roi Pharaon.
De nombreuses réactions de la communauté internationale au coup d'État au Gabon ont aussitôt afflué. L'Union africaine, l'Union européenne et le Commonwealth, les États-Unis, tous condamnent le tout dernier putsch sur le continent. Alexandrine Oulognon.
Le Maroc suit de près l'évolution de la situation en République gabonaise, a affirmé le ministère marocain des Affaires étrangères, soulignant l'importance de préserver la stabilité de ce pays frère. Fin 2018, Ali Bongo avait choisi le Maroc pour sa période de convalescence et de rééducation à l'hôpital militaire de Rabat, après avoir été hospitalisé en Arabie Saoudite à la suite d'un AVC. Mohamed VI lui avait rendu visite. Au Nigeria, le président Bola Ahmed Tinubu a déclaré qu'il était en contact avec d'autres chefs d'État africains au sujet de l'autocratie contagieuse que nous avons vue se répandre sur le continent. Le pouvoir appartient au grand peuple d'Afrique et non au canon d'une arme chargée, a déclaré Bola Tinubu par l'intermédiaire de son porte-parole. Le chef de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahama, a condamné fermement ce qu'il a décrit comme une tentative de coup d'État au Gabon. Il encourage tous les acteurs politiques à privilégier des voies politiques pacifiques. En France, dont la perte d'Ali Bongo porterait un nouveau coup à son influence en Afrique, le gouvernement a déclaré qu'il condamne le coup d'État en cours au Gabon et a réitéré son souhait de voir les résultats de l'élection respectés. Du côté de l'Union européenne, l'on pense que le coup d'État, s'il était confirmé, va aggraver l'instabilité dans la région. Le Commonwealth où le Gabon vient de faire son entrée a jugé la situation profondément préoccupante, rappelant au pays ses obligations en termes de respect de la démocratie. La Russie s'est déclarée profondément préoccupée par la situation, tandis que la Chine a appelé toutes les parties au Gabon à garantir la sécurité d'Ali Bongo, à résoudre les différends par le dialogue et à rétablir l'ordre normal dès que possible. Enfin, la Maison-Blanche suit de très près la situation. John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a jugé profondément inquiétante la succession de coups d'État en Afrique. Depuis 2020, des militaires ont pris le pouvoir au Mali, en Guinée, au Soudan, au Burkina Faso et il y a un mois à peine, au Niger.
Oh. Vous écoutez VOA Afrique, une édition spéciale sur le coup d'état militaire au Gabon. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba, dont la réélection après 14 ans au pouvoir venait d'être annoncée, a été mis en retraite, a affirmé le chef de la garde républicaine, le général Brice Oligui Nguema. Yacouba Ouédraogo a joint à Libreville le docteur Auguste Yéné Essono, analyste politique. Il estime que les Gabonais étaient fatigués de plus de 50 ans de pouvoir de la famille Bongo.
Je pense que tout observateur averti aurait compris que tout était lié, que la conjoncture, et c'est la crise politique qui sévit en Afrique de l'Ouest, pouvait avoir un effet de contagion dans l'autre sous-région la plus importante, l'Afrique centrale notamment. Donc je pense que quand on observe avec un minimum de finesse et de rationalité, on pouvait comprendre que si jamais l'élection n'était pas bien organisée et qu'il y avait des irrégularités, quelque chose d'inattendu pouvait se produire.
Vous pensez réellement que c'est lié seulement aux élections ou ce sont les Gabonais qui sont fatigués de 55 ans de pouvoir de la famille Bongo?
Je pense que c'est un ensemble de paramètres. En effet, les fatigués sont lassés, sont fatigués du régime Bongo, parce que comme le disait le professeur Albert Ndossa, 53-60 ans, c'est beaucoup trop. Et qu'au-delà des problèmes d'ordre structurel qu'on peut énumérer et décrire, il y a effectivement une certaine lassitude qui se manifeste. Il y a le fait de la conjoncture politique internationale, notamment au niveau de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Il y a le fait que le Gabon est une post-colonie, une ancienne colonie du pays carré français. Il y a également ceci, évident que la misère s'accroît, la pauvreté est de plus en plus manifeste et de plus en plus évidente dans notre pays, et les Gabonais ont de plus en plus l'impression qu'ils sont dépossédés de leur pays.
Les communiqués se sont enchaînés. Il y a d'abord eu l'annonce de Ali Bongo, vainqueur de la présidentielle, et juste quelques minutes après, les militaires annoncent un coup de force. Est-ce qu'on pourrait dire que les militaires étaient déjà préparés au cas où?
On pouvait comprendre que les militaires étaient prêts. En effet, l'armée, dans sa fibre républicaine, était en effet prête à dire son mot dans le cadre de cette élection. Parce que, n'oubliez pas que les militaires, c'est d'abord des citoyens d'un pays, et que ce que subissent les Gabonais depuis des décennies, ces élections qui sont sans cesse détournées, puisqu'il s'agit en effet de ce que le suffrage des Gabonais est sans cesse détourné, sans cesse malmené, jamais reconnu. Cet ensemble d'événements qui durent depuis des décennies, en effet, a aussi une incidence sur les idées militaires, qui sont d'abord des citoyens gabonais. Les militaires, eux aussi, en avaient marre. Les militaires, non seulement, ne supportaient plus de passer pour des poltrons, parce que l'armée gabonaise était traitée d'armée de poltrons, de suppôts du pouvoir. Je pense qu'ils en avaient marre.
Il y a des arrestations en cours. Le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, parti au pouvoir, en fait l'ex-parti au pouvoir, le président de l'Assemblée nationale, le fils d'Ali Bongo, accusé de haute trahison. Est-ce qu'il ne faut pas craindre une chasse aux sorcières?
Je pense que notre armée républicaine, c'est une armée intelligente. La preuve, je pense que la culture de coup d'État n'est pas du tout quelque chose de courant, quelque chose de légion dans notre pays. Une armée aussi républicaine, aussi disciplinée, lorsqu'elle prend la responsabilité de poser un acte aussi majeur que de dire que l'élection s'est mal passée, que de dire que c'est le même qui revient depuis des décennies, les élections ont lieu, et le vainqueur n'est jamais reconnu dans les urnes, le vainqueur des urnes. Une armée qui est aussi disciplinée, une équipe aujourd'hui pose un acte aussi majeur que celui-ci, n'est-ce pas, ne peut pas céder à la tentation de la chasse aux sorcières. Mais il est tout aussi légitime et normal que des interpellations aient lieu et que la justice fasse son travail, puisque ces gens-là sont présumés, en effet, d'être coupables de haute trahison, sont présumés, en effet, d'être coupables de blanchiment d'argent, de détournement de deniers publics, n'est-ce pas, de malversation de tous ordres.
Le docteur Auguste Yéné Essono, analyste politique à Libreville, au Gabon. Interrogé par le quotidien français Le Monde, le général Brice Oligui Nguema, qui semble incarner ce coup de force, a déclaré que les généraux allaient se réunir pour désigner celui qui va conduire la transition. Ce général Brice, qui était jusqu'à ce jour le chef de la garde républicaine du président déchu Ali Bongo Ondimba, qui est donc le général Brice Oligui Nguema, son parcours avec John Lydon.
Selon nos confrères du journal Le Monde, à qui il a accordé sa première interview exclusive, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, actuel président du Comité pour la transition et la restauration des institutions et nouvel homme fort du Gabon, est un homme très puissant, riche et influent. commandant en chef depuis 3 ans de la garde républicaine, garde prétorienne du président Ali Bongo, ce militaire a su s'imposer à la tête de l'appareil sécuritaire du régime. Fils d'un officier général gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema choisit très tôt le métier des armes en intégrant l'actuelle garde républicaine. Formé à l'Académie royale militaire de Meknès au Maroc, il est vite remarqué par la hiérarchie militaire et devient l'un des aides de camp du président Omar Bongo jusqu'à sa disparition en juin 2009. À l'arrivée d'Ali Bongo au pouvoir, Brice Clotaire Oligui Nguema travaille comme diplomate pendant une dizaine d'années comme attaché militaire à l'ambassade du Gabon au Maroc, puis au Sénégal. Un an après l'accident vasculaire cérébral d'Ali Bongo Ondimba en Arabie Saoudite en 2018, Brice Clotaire Oligui Nguema est rappelé au Gabon pour prendre la tête de la Direction générale des services spéciaux, puis 6 mois plus tard, celle de la Direction de la garde républicaine. Il impulse des réformes et renforce le dispositif de protection d'Ali Bongo. Sa réforme la plus marquante est sans doute le développement de la section des interventions spéciales, une unité spéciale placée sous l'autorité directe d'Ali Bongo Ondimba, qu'il fait passer d'une trentaine à plus de 300 éléments. Il l'équipe lourdement et c'est cette unité rejointe par d'autres corps de l'armée qui a annoncé ce mercredi la fin du règne cumulé des Bongo à la tête du Gabon depuis plus de 60 ans.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les réactions au coup d'État au Gabon. L'armée a donc décidé de tourner la page et de prendre ses responsabilités. La société civile gabonaise semble partager l'avis des militaires. Yacouba Ouedraogo, agent à Libreville. Nikèze Moulombi, président du Haut Conseil des acteurs non étatiques du Gabon.
Le régime attendait au regard de la qualité des résultats où le candidat de l'opposition arrivait fortement en tête dans certains bureaux. Je reste convaincu qu'à l'annonce de ce résultat, si la partie adverse avait été déclarée admise, il y aurait eu certainement un bain de sang. Donc je pense que le coup de force que les militaires qui sont chargés de protéger la sécurité nationale viennent de faire, ils viennent de la sauver au peuple gabonais, à un bain de sang. Mais je pense aussi que les militaires, par cet acte, viennent de redonner l'acceptabilité que le Gabon commence à perdre tant au niveau national qu'au niveau international. Contre la démocratie politique, contre de créer le désordre, il faut qu'une troisième voie se lève pour faire arrêter cela. Donc, on ne peut que saluer l'action des militaires, car ce n'est pas un coup de force des militaires d'une section, mais c'est plutôt les chefs de corps de tous les services militaires.
On sent beaucoup d'euphorie, beaucoup de joie dans les rues de Libreville notamment. Est-ce le cas à l'intérieur du pays et est-ce que déjà les Gabonais pensent au lendemain?
Mais oui, je peux vous dire qu'à l'intérieur du pays, c'est aussi pire que Libreville parce que la ville de Port-Gentil, c'est incroyable. Il y a eu de la lutte populaire, les militaires sont sortis en pensant, les populations ont saigné les militaires. Les lendemains, oui, je pense que un signal fort vient d'être lancé aussi par les forces de sécurité et de défense qui ont décidé de reprendre le pouvoir, les arrestations des membres du cabinet, du président et les proches amis du fils du chef de l'État, ainsi que le secrétaire général du parti au pouvoir. Et là, il y a quelques instants, le président de l'Assemblée nationale du Gabon vient d'être aussi récupéré par les militaires.
Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces arrestations-là?
Je pense que ces arrestations concourent justement à une meilleure accalmie et permettra de redessiner une nouvelle carte dans la sérénité. Parce que de toutes les façons, toutes ces personnes qui ont plongé dans la GABG et qui ont, comme eux-mêmes ont dit, avec des tournements, trafic de stupéfiants, et qui ont de l'argent et qui peuvent en retour alimenter
Ce sont des accusations assez graves quand même.
C'est quand même le Conseil de sécurité, c'est des hauts officiers qui l'ont dit. Et je peux vous assurer que, au passage, le chef de l'État a dit, ça a été interprété à tort ou à raison, mais il a dit qu'en 5 ans, il n'a pas géré. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas surpris des fortes accusations qui sont versées autour de ces personnes qui ont été les proches collaborateurs C'est pas de la chasse à l'homme, je pense. Pour le moment, nous saluons la grandeur d'esprit de ces militaires qui n'ont pas fait couler le sang. Nous espérons simplement que cette transition tiendra compte de l'ensemble des forces vives de la nation qui ont de quoi apporter à leur pays et redonner au pays leur lettre de noblesse.
Nikèze Moulombi, président du Haut Conseil des acteurs non étatiques au Gabon. Dans la matinée, des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Libreville pour célébrer l'annonce du coup d'État. Yacouba Ouédraogo a recueilli la réaction de Leila Ndiaye, experte en relations internationales basée ici à Washington, D.C.
Il n'y a pas grande analyse à faire. Ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est plutôt constater les faits. La situation du Gabon était bien évidemment très visible. Nous avons tous été témoins du fait que un jour avant les élections, il y a eu une annonce du gouvernement gabonais disant que, d'abord, un, les réseaux sociaux allaient coupés pour des raisons de sécurité, qu'il y a à voir aussi la fermeture des frontières. Toutes les frontières ont été fermées, sauf les frontières aériennes. Et ensuite, il n'y avait aucun observateur international pour les élections, ce qui présageait bien évidemment rien de bon. Ce n'était pas de bon augure. Alors, une élection avec une opacité comme celle que le Gabon a eue, ne pouvait que présager un résultat comme ce que nous avons constaté ce matin. Ce qui est aussi marquant, c'est que le président vainqueur, à 4h du matin et à 4h30, il a été renversé par les militaires. Ce qui veut dire que non seulement ils étaient préparés à répondre justement en cas de fraude, et cette fraude a été totalement inacceptable, non seulement pour le citoyen lambda gabonais, mais aussi pour les militaires qui, pour la première fois au Gabon et en Afrique centrale, dans une condition comme nous la connaissons aujourd'hui, ont pris sur eux de renverser la tendance en annulant tout simplement les résultats de l'élection.
Leila Ndiaye, experte en relations internationales. Le président renversé du Gabon, Ali Bongo Ondimba, assurait depuis le 25 février 2023 la présidence de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale a connu dans un passé récent des coups d'État et des rébellions armées, et le putsch au Gabon représente un défi pour la sous-région. Mouamadou Mfa a joint Delmas Safak, docteur en relations internationales et chercheur au Nkafu Policy Institute, un cercle de réflexion basé à Yaoundé, au Cameroun.
Les présidents des autres pays de la sous-région, surtout ceux membres de la CEMAC, et dont le profil ressemble beaucoup plus à celui du Gabon, peuvent bien être impactés. Ne soyez donc pas surpris qu'après ce coup d'État au Gabon, ces présidents procèdent à des grands changements dans leur garde rapprochée ou dans d'autres fractions de l'armée afin d'éviter le syndrome gabonais. Vous savez, on est en Afrique, un proverbe africain dit « Lorsque la barbe du voisin brûle, il est nécessaire de commencer à mouiller la tienne avant d'éviter la contagion ». Les présidents de cette sous-région sont à plusieurs dizaines d'années au pouvoir, à l'instar du Cameroun avec le président Biya qui est là depuis 1982, de la Guinée équatoriale avec le vétéran Obiang Nguema depuis 1979, sans oublier le président Sassou de la République du Congo. Donc, un effet domino n'est pas à exclure.
Ali Bongo Ondimba présidait la CEAC, la Communauté des États de l'Afrique centrale. Que prévoient les textes de cette organisation en cas de coup d'État?
Lorsque vous parcourez les textes de la CEAC, il est difficile de trouver un texte spécifique à la question de démocratie et de gouvernance, surtout en ce qui concerne les coups d'État. La CEAC vise beaucoup plus à promouvoir la coopération et le renforcement de l'intégration régionale. Les États de la sous-région sont plutôt signataires de la Charte africaine des élections, de la démocratie et de la gouvernance CADEC, qui est contre tout changement anticonstitutionnel de gouvernement dans les pays du continent, dont le Gabon fait partie. Donc, la CEAC pourrait facilement s'aligner derrière cette CADEC pour répondre à ce qui se passe au Gabon actuellement.
En Afrique de l'Ouest, on a vu la CEDEAO se mobiliser fortement au Niger et dans d'autres pays avant cela. Est-ce que vous pensez que la CEAC ou la CEMAC vont se mobiliser pareillement pour ce qui se passe au Gabon?
Premièrement, je ne pense surtout pas pour la CEMAC, parce que la CEMAC ne dispose pas d'institutions capables de mettre la pression sur les putschistes pour qu'ils libèrent le pouvoir. Vous voyez, depuis ce matin qu'on parle de coup d'État au Gabon dans un pays membre de la sous-région, aucun pays de la CEMAC ne s'est encore prononcé, et même la CEMAC en tant qu'institution personne, elle ne s'est pas encore prononcée. Et pourtant, l'Union africaine vient de faire un communiqué pour condamner le coup d'État. On attend encore le communiqué de la CEMAC. Et pour la CEAC, elle peut aussi faire des communications, mais comme en Afrique de l'Ouest, avec le cas nigérien, la force en attente de la CEAC n'est pas fonctionnelle pour agir promptement. Donc, une intervention serait très peu probable. Il y a problème d'organisation, problème de financement de la mission et autres. La dernière intervention de la CEAC dans un pays de la sous-région date de juillet 2008, avec la mission de consolidation de la paix en Afrique centrale, ça s'appelait MICOPAX. Et depuis lors, on n'a plus pu avoir une intervention de ce genre de la CEAC dans un pays de la sous-région.
Delmas Safak, docteur en relations internationales et chercheur au NKFU Policy Institute, un think tank basé à Yaoundé au Cameroun.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le coup d'État au Gabon qui a mis fin à 14 ans de règne du président Ali Bongo Ondimba et plus de 5 décennies de pouvoir des Bongo. Très tôt mercredi, des militaires sont apparus à la télévision pour annoncer la fin du régime et la suspension des institutions peu après la proclamation des résultats donnant le président Bongo vainqueur. Avec nos invités, nous analyserons le putsch au Gabon, ses causes et ses répercussions au niveau national et dans la région. Rendez-vous ce jeudi dans Washington Forum à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
Vous suivez VOA Afrique. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, le ministre de la Justice a déclaré que la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko dans une affaire de mœurs est définitive, ce qui le rend inéligible pour la présidentielle de 2024. Monsieur Sonko, dont le rapport de force avec le pouvoir et la justice tient le Sénégal en haleine depuis plus de 2 ans, a été déclaré coupable le 1er juin de débauche de mineurs, condamné à 2 ans de prison ferme, ayant refusé de se présenter au procès qu'il dénonçait comme un complot pour l'écarter de la présidentielle. Il a été condamné par contumace. Ousmane Sonko a entamé une grève de la faim le 30 juillet. Il est hospitalisé depuis le 6 août. En République démocratique du Congo, au moins 10 personnes ont été tuées ce mercredi à Goma dans le cadre d'une manifestation à l'appel d'une secte contre l'ONU réprimée par l'armée avant qu'elle débute, annoncent les organisateurs et des sources hospitalières. Les forces armées congolaises nous ont attaqué au local de notre radio et dans notre temple. Ils ont tué 6 personnes, a dit Moleka Marigan, l'un des cadres de la secte, foi naturelle judaïque et messianique vers les nations, organisateur de la marche. Il a ajouté qu'au cours de 7 assauts lancés par l'armée, leur leader Matou Michi Bissimoua a été arrêté. Une haute personnalité américaine se rend vendredi en Afrique de l'Ouest pour tenter de trouver une issue diplomatique à la crise au Niger, théâtre d'un coup d'État à la fin du mois de juillet. Molly Fee, la sous-secrétaire d'État pour l'Afrique, ira au Nigeria et au Ghana, 2 pays qui appellent au rétablissement du gouvernement élu à Niamey, ainsi qu'au Tchad, voisin du Niger et importante puissance militaire régionale. Dans son voyage, Molly Fee reviendra sur les objectifs communs que sont la préservation de la démocratie, durement acquise par le Niger, et la libération immédiate du président Bazoum. Il est également prévu qu'elle consulte des hauts responsables du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Togo, pays membres de la CEDEAO. La secrétaire américaine au commerce, Raimondo Gina, a assuré ce mercredi avoir abordé face aux responsables chinois les sujets difficiles qui affectent la relation économique entre les 2 pays au terme d'une visite de 4 jours en Chine. J'ai soulevé les sujets difficiles tels que les subventions, les pratiques anticoncurrentielles de la Chine, les perquisitions dans les entreprises américaines, le vol de la propriété intellectuelle, a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse à Shanghai. Un Russe a comparu aujourd'hui à Moscou pour avoir critiqué l'offensive en Ukraine lors d'un micro-trottoir du média Radio Free Europe, Radio Liberty. En juillet 2022, notre gouvernement a affirmé vouloir combattre les nationalistes ukrainiens, mais bombarde des centres commerciaux, avait déclaré Yuri Kokovet, âgé de 37 ans, dans cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Il a également accusé les militaires russes d'avoir abattu sans raison des civils à Boutcha, une localité près de Kiev qui a été théâtre d'un massacre imputé aux forces de Moscou au début du conflit en 2022. Il faut arrêter tout cela chez nous. Un homme peut arrêter tout cela, ajoutait-il à la sortie d'une station de métro en référence à Vladimir Poutine. Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan sera reçu demain jeudi à Moscou par son homologue russe Sergei Lavrov, a annoncé aujourd'hui le porte-parole de la diplomatie russe, alors qu'une rencontre entre les présidents Erdogan et Poutine est attendue prochainement. Voilà. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition spéciale consacrée au coup d'État au Gabon. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.